La gauche, c'est nul, mais il y a un côté, on a quand même envie d'éviter le pire.
En même temps, j'admire cette pureté de dire...
Mais éviter le pire et trouver le mieux, c'est quand même différent.
Quoi. Ah, je ne veux pas.
Éviter le pire, c'est être dans un... C'est être dans un truc justement de soustraction, comme vous disiez tout à l'heure, et éviter d'aller dans l'endroit le plus merdique. Mais en fait, pourquoi pas construire un endroit qui est mieux plutôt que de toujours éviter le caca. Enfin, je sais pas.
Moi, je me demande juste, est-ce que pour vous, vous construisez des sociétés, des modèles de société idéale? Est-ce que vous êtes. Si on essaye d'aller un petit peu en avant, en amont, qu'on essaie de regarder. Vers l'avant. Est-ce que pour vous, en tout cas, ou même ici, est-ce qu'il y a une forme de vie qui vous semble idéale, qui est en construction?
En fait, idéal, utopie, ça fait plus partie du programme.
Ça fait pas partie du programme.
Joker.
Non, pas de Joker, c'est juste ça fait plus partie du programme.
Je sais pas, risquer un petit peu l'utopie, justement. Enfin, il y a...
Oui, il y a un ami qui dit l'utopie, c'est faire un cadre et chercher des figurants.
C'est une idée régulatrice
qui nous amène...
Non, mais c'est une idée régulatrice qui nous tend vers un futur. On peut critiquer quelque chose dans le moment présent tout en ayant une perspective qui va plus loin. C'est ça qui nous tend, c'est ça qui nous fait avancer. Et ça, je me demandais, du coup, si vous vous situez dans... Non, c'est... Parce que tout le monde a rigolé quand j'ai parlé de futur.
Mais... C'est vrai, parce que dans l'histoire des traditions révolutionnaires, il faut bien dire qu'il y a quand même cette question de l'utopie qui est centrale. Enfin, et c'est quand même... Alors ce livre que je voulais d'ailleurs qu'on discute, peut-être pour cette séance, mais on la discutera peut-être pour la prochaine, qui s'appelle Utopie. Utopie concrète,
les sentiers de l'utopie.
Les sentiers de l'utopie, voilà. Les sentiers de l'utopie, d'ailleurs où il y a un chapitre sur Longomaille et tout ça. Et c'est bon. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans les traditions anarchistes, ce pourquoi en fait l'appel quelque part à une sonorité parfois un peu anarchiste, il y a aussi cette idée sur laquelle on n'a pas à organiser temporellement l'accès à la situation que l'on souhaite. On peut l'obtenir ici et maintenant, tout de suite en fait. Il suffit d'arrêter un certain nombre de choses et c'est immédiat. Et ça, c'est intéressant pour les traditions révolutionnaires parce que, à l'inverse, évidemment, quelque chose du marxisme qui est très fort, qui consiste à dire on va construire, on va un peu suspendre la question de l'utopie pour définir en fait les projets politiques en fonction des rapports de force réels. En fait. C'est ça, fondamentalement, Marx, l'opposition qu'il fait entre le socialisme utopique et le socialisme qu'il propose, c'est de dire bon, en fait, la question n'est pas tellement celle de savoir quelle est la société idéale à laquelle on aspire, mais la question est de savoir quels sont les possibles de la situation dans laquelle nous vivons, qui, comme toute situation, est quand même tendue de contradictions, de tensions, de dynamiques, etc., et qui réserve, en fait, certaines possibilités, voire certaines dynamiques presque nécessaires. Et donc, on va aller vers là. Et là, les anarchistes ont toujours, en fait, reproché à Marx d'être, au fond, une sorte de réformiste brutal. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui veut obtenir la société communiste par les moyens de l'État, en utilisant l'État pour brutaliser la société afin d'obtenir la situation utopique. En fait, c'est un réformiste. C'est un Manuel Valls, un peu plus dur. Quoi. Oh, je déconne, j'adore. Mais ça, c'est intéressant parce qu'effectivement, tous les mouvements communautaires quand même qui se sont développés depuis les années... en fait, déjà dans la tradition anarchiste, dès le 19e siècle, mais beaucoup à partir des années 70, etc., c'est effectivement des mouvements d'utopie immédiate. C'est pour ça qu'effectivement, ils peuvent donner leur joker. Parce qu'ils font à la fois... Enfin, il n'y a pas de... Voilà, ils sont à la fois dans la stratégie et dans la réalisation effective du mode de vie. Donc, en fait, c'est vrai qu'il n'y a pas cette idée de... Ça, c'est fort, quoi. Ils sont à la fois dans un rapport de force. C'est à la fois, on prend en compte les rapports de force tels qu'ils sont. On construit un rapport de force. Et en même temps, on construit une forme de vie effective. On n'est pas en train de construire un parti pour transformer plus tard nos formes de vie. On fait une forme de vie et cette forme de vie est en même temps la construction d'un rapport de force. Donc ça, c'est vrai que c'est banco, quoi. Ça marche très bien. C'est une bonne idée.
Moi, je crois que c'est lié aussi à un truc assez anti-marxiste qu'on a dans cet appel. C'est pas forcément une critique, hein, mais que, on va dire, dans les courants marxistes encore aujourd'hui, on a vraiment une pensée de la temporalité de la lutte. Je sais pas, je pense à Ben Saïd, par exemple, où vraiment, il y a voilà, le cycle du capitalisme, les crises, il faut avoir une stratégie temporalisée de la lutte, alors que là, au contraire, on a vraiment une dimension beaucoup plus territorialisée de la lutte, beaucoup plus spatialisée. Et je pense que du coup, c'est pour ça qu'on parle beaucoup d'autonomie aussi, c'est qu'on fait quand même beaucoup référence à l'autonomie des années 70 italienne, où effectivement c'était l'idée de libérer des espaces, libérer des quartiers, libérer des lieux de production, où contrairement à, on va dire, à un trotskisme qui va chercher à prendre l'État à travers sa temporalité de crise et de prospérité, on va essayer de libérer des quartiers et de créer des espaces, quoi. Et moi, on retrouve vachement dans ce texte-là, quoi.
C'est un truc que je me demande, quels sont les rapports exacts de l'autonomisme et de l'anarchisme. J'ai lu récemment en fait que c'était complètement ridicule, quelqu'un dit c'est complètement ridicule de les rapprocher ou de les confondre. Moi j'ai quand même l'impression que c'est quand même très proche, quoi. Il faudra un jour qu'on discute de ça. Oui.
Je voudrais revenir en fait sur l'idée d'utopie. Moi je pense que c'est très important et pour y réfléchir beaucoup en fait, je pense que c'est vraiment très central en fait dans...
Moi j'ai écrit une utopie. Qui a écrit une utopie. Moi, j'ai écrit une utopie.
C'est en fait des utopies en fait possibles. Et moi, je pars toujours un peu du réel en fait. Voir quand j'interroge les gens autour de moi en fait, leur utopie très souvent, c'est gagner plus d'argent. C'est un sentiment de puissance. C'est le mode dans lequel on est construit, ce qui fait que l'argent, c'est la toute puissance, c'est l'infinité des possibles, et c'est une forme d'utopie pour eux. Pour d'autres, c'est dans la religion, par exemple, c'est l'au-delà, c'est l'éternel, le paradis. Donc c'est une forme d'utopie, donc c'est bien se comporter pour être dans l'éternel. Donc c'est l'utopie, c'est l'au-delà. Si on reste dans le sensible, moi c'est mon motto, là, le sensible, vraiment l'émotion. C'est-à-dire que si notre utopie, c'est vraiment de vivre le sensible immédiatement, là ça rejoint aussi la question de la temporalité, c'est... je vais faire une... Je reviens un peu sur ce que je dis, mais en gros, le mode de vie dans lequel on vit correspond aux aspirations des gens. En fait. En gros, l'urbanisme, notre activité, notre quotidien, en fait, c'est lié aux aspirations immédiates des gens. C'est vraiment sur leur aspiration, leur utopie, c'est effectivement c'est soit l'argent, soit la religion. En gros. C'est vraiment ce qui fait vivre le peuple dans sa très grande majorité. Et si on arrive à retrouver une utopie en fait centrée sur le sensible, sur l'émotion qu'on a en fait vis-à-vis de l'humain, l'interaction qu'on a envie de développer avec les autres, ça va complètement transformer en fait nos modes de vie et nos modes d'habitat, nos modes de d'union aussi. Si on arrive à centrer l'utopie sur effectivement quelque chose de sensible et d'immédiat, c'est là où on aura une perspective un peu révolutionnaire, c'est là où on va vraiment commencer à abandonner des modes de consommation qui sont complètement destructeurs pour la planète, si on rejoint la question là, de réchauffement climatique, de changement climatique. Si on est vraiment sur le sensible, en fait, on va être beaucoup moins intéressé sur les questions du divertissement à tout prix, le spectacle qui est vraiment le ce qui endort les peuples. Donc pour moi, la question de l'utopie, c'est vraiment central. En fait. Donc quand on dit l'utopie... un sujet, moi je pense que c'est vraiment le sujet en fait, c'est-à-dire que c'est là où démarre entre guillemets l'idée de la révolution, c'est-à-dire une révolution individuelle, collective, et aussi de nos modes de production, de consommation. Pour moi l'utopie c'est vraiment important.
Une utopie sensible, c'est-à-dire que chacun a son utopie, un peu. Et par exemple, monsieur a écrit son utopie, du coup, tout le monde a écrit son utopie, et on va suivre peut-être celle-ci, celle-ci.
Il y a une utopie commune, en fait, ça peut voir bien, moi je parle toujours de ce qui marche, vraiment, l'argent à gagner, entre guillemets, c'est qu'on a réussi à vendre l'idée que l'argent vous permettait d'être plus libre. Et effectivement, c'est une idée centrale, en fait, et qui est puissante. Nous, on s'en détourne, enfin, moi, personnellement, je m'en détourne de plus en plus. Je pense que j'essaie de voir en fait ce dont j'ai besoin, donc je suis un peu aussi dans une dynamique de simplicité volontaire, de savoir vraiment ce que j'ai vraiment besoin de consommer à tout bas, est-ce que j'ai besoin de... est-ce que je me retrouve vraiment dans la consommation, est-ce que je me retrouve dans les objets que j'achète, est-ce que ça me définit en tant que personne, ma question est, enfin, la réponse est non. Et si en fait on se recentre en fait sur le sensible, donc vraiment si on dit par exemple moi personnellement si la valeur que je porte à ma vie c'est mon interaction avec les gens, effectivement, je vais écarter beaucoup de choses en fait, qui sont de l'ordre de la production, de la consommation, du capitalisme. Donc l'utopie, en fait, il y a des choses en fait, qui sont centrales. En fait, on peut après les décliner en sous-catégories, en sous-utopies. En fait, certains vont plutôt développer l'utopie, je sais pas moi, enfin... on peut les décliner, je ne vais pas toutes les lister, mais...
Non, mais l'utopie, c'est une histoire, enfin, si on veut être juste précis. Enfin, moi, j'ai écrit une histoire. J'ai décrit un monde idéal. Enfin,
qu'est-ce que ça va être?
C'est une fiction.
Qu'est-ce que tu as écrit?
C'est une utopie...
C'est non, c'est pas compliqué, c'est un truc, c'est une utopie qui s'appelle l'utopie post-sexuelle, même. L'utopie post-sexuelle, et voilà, une utopie post-sexuelle, vous pouvez la lire, elle est dans un livre qui s'appelle Anti-manuel d'éducation sexuelle, que je n'ai pas écrit tout seul. Mais non, une utopie en sens propre, c'est une histoire, c'est une vision, c'est une description, c'est une fiction, hein, donc... voilà, bon, je pense qu'il y a un régime d'écriture de l'utopie, je suis assez d'accord, qui a une fonction critique. L'intérêt d'écrire des utopies, c'est que ça a une fonction critique. C'est-à-dire ça fait apparaître des choses que... Enfin, ça crée la pensabilité.
Le but de l'utopie,
c'est de construire une possibilité. C'est ça la puissance de l'utopie, c'est juste que tu construis une possibilité. Bon, c'est un petit peu, disons, un peu latéral par rapport à ça, mais bon, c'est pas parce que, enfin, je veux dire, on peut à la fois penser que,
c'est,
au fond...
du rêve, un peu.
C'est une fiction, enfin...
Oui, c'est une fiction, mais une utopie, ça veut dire qu'on propose quelque... Enfin,
c'est ça, mais ce qui est important, c'est pas ce que tu proposes, c'est les effets en retour que ça a pour éclairer, en fait, la situation dans laquelle tu te trouves. C'est pas le but du jeu, c'est pas qu'on croit, enfin, il y a peut-être des gens qui croient à leur utopie, il y a des gens qui ont cru à leur utopie. Par exemple, Fourier croyait à son utopie, c'était assez magnifique, et donc il a pendant des années, il mettait une petite... Donc Charles Fourier, un des grands, d'ailleurs, finalement précurseur de l'anarchisme, enfin, peut-être un des fondateurs du socialisme, début du 19e siècle, époque balzacienne, etc. Fourier, il avait, c'est quand même une histoire que j'adore, il avait, en fait, il mettait une petite annonce dans le journal, parce que pour proposer ces utopies qui ont fini par d'ailleurs se réaliser pour certaines d'entre elles, dans les phalanstères, etc. Et donc il décrivait très précisément comment les choses étaient organisées, tout ça. Et pour que, bon, ben, pour créer ça, il fallait qu'il y ait une mise de fonds première, quoi. Et lui, il n'avait pas l'argent, il vivait dans une petite mansarde, comme ça, dans Paris, avec plein de chats, et tout ça, il est absolument au carreau. Et donc il a mis une petite annonce dans un journal, enfin, il dépensait tout son argent pour mettre cette petite annonce, en attendant qu'un milliardaire, en fait, ou un millionnaire, disons, finance son truc, quoi. Et ben, je vous le dis, le millionnaire n'est jamais arrivé, en fait. Un jour, il a retrouvé mort au milieu de ses chats. C'est une belle histoire, malgré tout. Un point.
Ouais. De toute façon, c'est où elle se situe, parce qu'il y a des projets de société qui se construisent, tout ça, des tas d'idées. Mais en fait, ce qui se retrouve maintenant de plus en plus, c'est une utopie, en fait, du quotidien. Et en fait, elle se resitue sur des niveaux beaucoup plus pours et réduits et infimes. Enfin, c'est un peu dans le texte, il y a des tas de choses assez concrètes, enfin, je sais pas, qui parlent du quotidien. Et je pense que c'est là où il y a une inventivité, c'est elle est réintroduite dans des choses qui sont de l'ordre de, je sais pas, l'infinitésimale, ou j'en sais rien, des choses... c'est un peu des choses très réduites, quoi, qui n'ont plus les mêmes échelles. Donc c'est l'endroit où elle se reconstruit, l'utopie. C'est pas dans des constructions sociales générales, c'est pas dans l'urbanisme. Maintenant, elle se réintroduit dans un rapport entre les gens. C'est-à-dire une utopie, elles peuvent se... Enfin, la reintroduction de l'utopie, c'est qu'elle se construit peut-être entre déjà la connexion entre deux personnes, quoi. Et ça, c'est peut-être un...
C'est un... Pour qu'il y ait utopie, il faut qu'il y ait transgression d'un invraisemblable. Sinon, c'est pas une utopie.
Mais en fait, sinon, si tu veux, comme on parle, c'est...
Si on peut parler d'utopie concrète, et on peut parler d'utopie concrète, c'est que des fois, des gens réalisent de fait, Longomaille ou ailleurs,
la réalité
qu'ils croyaient impossible.
Oui, mais je
peux me permettre, on est passé de la première question qui était qu'est-ce que vous avez comme projet pour le futur. Et on est passé à l'utopie. Et l'utopie, c'est quelque chose, c'est un idéal, et c'est, à mon avis, c'est très individuel. Je voulais juste, enfin, je suis d'accord avec ce que dit César, mais moi je pense à l'époque de la Commune où il n'y avait pas une idéologie, une utopie qui portait les gens, mais le projet de la Commune s'est construit parce que les gens étaient en acte à ce moment-là. Et que, enfin, en tout cas, moi, c'est ce à quoi j'aspire, et je suis là, c'est un peu dans cette idée-là, c'est que c'est dans les actions qu'on va construire collectivement notre futur, notre mode d'organisation. Juste parce qu'on part dans les... Je sais pas si...
Non, mais c'est encore une fois, c'est pas contradictoire, c'est tout ce que je veux dire. L'histoire, la fiction n'est pas contradictoire avec la réalité. Enfin, on va pas chasser la fiction. Je suis contre. Je veux garder la fiction.
Dans l'utopie, il y a quand même l'idée d'île, quoi, l'idée justement de faire sécession. Et est-ce que d'une certaine manière, c'est pas aussi un peu contradictoire avec la politique, dans le sens où la politique doit être s'inscrit dans la totalité. Je veux un peu rejoindre aussi sur la question du réchauffement climatique. C'est-à-dire que c'est vrai que la question du réchauffement climatique, c'est l'idée du gauche, mais c'est quand même ce qui donne une échelle à la, ce qui donne une forme d'échelle limite à la politique. Et est-ce que dans l'idée des socialistes utopiques, ou dans l'idée d'utopie, ou dans l'idée, on retrouve un peu dans l'appel, l'idée de faire sécession, il n'y a pas quelque chose de contradictoire avec la politique, fondamentalement, qui a un rapport à la totalité, à une sens.
À la totalité.
À la totalité. C'est-à-dire que dans l'histoire,
pourquoi tu ne vois pas le rapport à la totalité dans le.
Mais
dans
c'est présent dans le. Non, mais il est présent dans le texte. Le terme d'empire, par exemple,
empire, c'est un rapport système, à la totalité. Contre-attaque. Hein.
Mais depuis un. depuis un point qui est quand même. Un point. Un lieu séparé. Enfin, d'une certaine manière, le lieu de l'utopie. Voilà.
Mais ça, c'est ce que je disais, c'est ce double mouvement qui est caractéristique de l'originalité de ces formes, disons, contemporaines, je pense, de communes, enfin, ou de politiques communautaires.
Oui, on peut dire une survivance.
Comment ?
Aussi une survivance du socialisme politique, quoi, d'une manière d'urgence.
Ça dépend ce que tu entends. Oui, c'est vrai, c'est une survivance. D'une certaine manière, c'est la même chose.
Non, moi, je trouve ça très bizarre de parler d'utopie, parce que le texte parle absolument pas d'utopie, il réfléchit pas du tout en termes d'utopie. Et je crois qu'on mélange vachement quand même... Enfin, en tout cas, le terme d'utopie est complètement gangréné par, notamment, la conception un peu dominante du type « Arrête de penser comme ça, tu penses sous forme d'utopie, quoi. » Et du coup, je pense que moi, ce terme-là, je le trouve pas hyper, en réalité pas hyper intéressant. Alors après, il a une forme historique particulière, mais je crois pas qu'il faille penser en termes d'utopie, et simplement en termes de qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, comment on s'organise, quoi, tout simplement, en fait. Et est-ce qu'il y a une utopie future, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire, etc. En fait, peu importe, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant, et comment on peut améliorer notre quotidien, ou comment on peut s'organiser.
Tu es d'accord qu'il y ait la question spontanée d'un certain nombre de gens qui est faire, mais pourquoi, en vue de quoi, est assez naturelle. Et même oui, si, effectivement, dans le texte, elle est considérée
mais
comme...
est-ce qu'on doit faire référence à une utopie pour pouvoir y répondre? Je suis pas certain du tout, en fait.
Donc comment est-ce qu'on caractérise notre désir?
Bah, politiquement.
Comme, ouais.
Donc, je sais pas si je veux faire un développement comme ça.
Mais si, fais un développement. Comment est-ce qu'on caractérise notre désir? Si on ne le caractérise pas par une image d'un but à atteindre, c'est ça ce que tu viens de dire. Donc on le caractérise comment? Bah, est-ce que à la question, qu'est-ce que vous voulez? Parce que dans le texte, il y a ça, à un moment, il y a un interlocuteur imaginaire qui arrive et dit « Mais vous voulez quoi, finalement ?» Et là, on le renvoie dans les cordes. On lui dit n'importe quoi, quand tu poses la question comme ça, ça veut dire que déjà tu nous sépares de toi, etc. Et en même temps, je veux dire, en fait, je suis assez convaincu par le geste de l'envoyer dans les cordes, mais en même temps, on comprend que c'est normal de poser la question, mais vous voulez quoi, en fait? Où est-ce que vous voulez aller?
Entre ce qu'on veut et ce qu'on désire, et le thématiser sous forme d'utopie, j'ai une différence.
Donc comment on fait? Parce qu'il ne suffit pas de dire, on a des tactiques, etc. Quel est notre désir?
Mais on ne peut pas répondre à quel est notre désir, on veut une utopie.
Mmh.
On peut pas répondre, on veut une utopie.
Bah. Ah, comme en général, une utopie en général, c'est ça que tu veux dire?
Non, mais on est bien obligé de... Enfin, il a raison, je trouve.
On n'est pas obligé, tu veux dire, de donner une image du futur?
Si, on est bien obligé, mais c'est pas forcément une utopie. Enfin, je sais pas. Le problème d'utopie, c'est utopia, quoi. C'est qu'elle est pas là. C'est qu'en même temps qu'elle est là, elle est pas là. Donc, ça peut pas être une réponse. Enfin, je sais pas. Trouver d'autres formes de réponse, quoi.
Même répondre très simplement, je sais pas, des échanges qui sont pas des échanges qui y a une évolution des rapports de production, des échanges qui sont pas des échanges marchands. Enfin, je veux dire, il y a mille façons de répondre à ta question. Il
n'y
a pas nécessairement besoin de faire référence à une époque, quoi.
Peut-être
que
c'est le
échange marchand. Ça ressemble un peu à une utopie déjà.
Non, mais dit le comme rôle ça. De la fiction.
Non, mais je veux dire,
ça existe des espaces où il n'y a pas d'échange marchand.
Exactement. Une abolition.
Le rôle de la fiction, le rôle de l'image, le rôle de l'utopie dans une lutte, disons. Je le questionne en tout cas. Je me demande, est-ce qu'il est important? En plus, là, on est dans un lieu quand même avec beaucoup de gens qui produisent des formes artistiques. À quoi elles servent, à quoi ça sert aussi d'écrire une fiction, d'écrire quelque chose qui n'existe pas encore pour que ça nous mène vers quelque part au-delà de ce dans quoi on est là maintenant tout de suite.
Non, mais fiction et utopie, c'est pas la même chose non plus. Personne dit qu'il faut
oui.
Enfin, faut pas parler de fiction, mais.
Mais
fiction
si j'essayais de.
C'est pas pareil non plus.
Ouais. Mais c'est quelque chose qui n'est pas là en tout cas.
Oui, oui, bien sûr.
La fiction, l'utopie, l'art. Ça pose un en dehors du, du réel et qui nous amène au-delà de ce dans quoi on est dans l'ici et maintenant.
Pas tant de voir que ça. Enfin, là, il est présent même en tant qu'œuvre, elle est présente là.
Je veux dire, si tu caractérises ton désir en disant je veux résister au système. Non, mais tu vois, c'est une manière. Parce que non, une autre manière de dire, bon, je veux pas dire où je veux aller, je veux dire ce contre quoi je lutte. C'est une manière, c'est une stratégie pour éviter de parler, justement, d'avoir une image. J'insiste, en fait, c'est une image, donc une fiction, un but. Une manière de le faire, et je la respecte énormément, et de dire, en fait, non, mais c'est dans l'immanence des rapports de force que je vais définir mon désir aussi en disant bah, ce à quoi je veux, justement, me soustraire, par exemple.
Un désir négativement.
Bah, c'est un peu un problème, mais ça peut être une manière de représenter ce désir. C'est une manière de c'est pas sa réalité, mais c'est une manière de dire aux autres ce qu'il est, par exemple, effectivement.
Ou dire ce qu'il n'est pas, en tout cas.
Ouais, dire ce qu'il ne... Bon, mais là où les choses deviennent un peu plus fragiles, c'est quand on dit « qu'est-ce que tu veux pas ? Je veux pas de l'Empire. » Vague, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que l'avantage de l'utopie, c'est de dire « mais encore
!» En même temps, c'est pas si vague que ça, finalement.
Je veux pas de l'Empire, tu t'autofas, c'est pas vague.
C'est-à-dire que si tu veux pas de l'Empire, dans quoi tu te retrouves ?
Bonne question.
Ouais.
Je sais pas trop.
Bah, en fait, il suffit de regarder l'histoire. Tu regardes l'histoire et la géographie et tu dis, bon, quand il n'y avait pas des empires, il y avait quoi ? Bah, c'est déjà un début de réponse.
Il y avait quoi ?
Bah, il y avait des communautés.
C'est intéressant comme manière de voir, mais c'est vachement problématique, ça. Parce que ça sonne, moi j'entends beaucoup de critiques, justement, c'est dans l'appel aussi, mais disons de cette revendication d'une authenticité existentielle, un peu de caractère, un peu, moi je trouve ça sonne un peu heideggerien, retour à l'authenticité, à la terre, au vrai rapport et tout ça. Ouais. Et là, quand tu le dis, c'est carrément réactionnaire, c'est-à-dire il faudrait revenir au Moyen-Âge. Et là, c'est-à-dire avant qu'il y ait des empires, c'était ça. Donc c'est-à-dire le modèle, c'est le truc qu'il y avait avant. Donc là, on a envie de...
Mais il y a aussi des modèles qui existent aujourd'hui, qui ne sont pas impériaux. Hein ?
Ouais.
Il y a plein de modèles. Et ça, c'est tout au cœur d'un gros travail d'anthropologie, par exemple. L'anthropologie, aujourd'hui, explose dans les sciences sociales parce qu'ils repartent sur à l'assaut de ce qui n'est pas l'Empire, justement. À l'assaut, enfin, je veux dire...
La découverte,
mais moi j'appelle ça en ce moment, c'est très personnel, mais ça m'aide à réfléchir. Et pour moi, le travail anthropologique qui se fait en ce moment avec des gens comme par exemple des Castro, on en avait parlé l'autre fois, j'appelle ça une anthropologie de la réparation. C'est-à-dire d'aller voir dans les endroits qui ne sont pas impériaux ce qui peut être intéressant pour nous. Pour nous réparer, nous, et peut-être éventuellement même pour les réparer eux, parce qu'on leur a fait vraiment. Ils en souffrent énormément de notre. Donc du coup, il n'y a pas que le Moyen-Âge. Puis même, quand tu regardes avant les Grecs, il y a encore une autre forme de moment qui n'est pas impérial. Ou quand tu regardes avant les villes encore. Et quand tu regardes aujourd'hui, il y a plein d'endroits géographiques. Enfin, c'est des monades. C'est des monades à la fois dans le temps et dans l'espace où là, tu peux voir qu'est-ce qui n'est pas l'Empire. Et du coup, partir de là pour voir ce qui peut t'intéresser.
Tu peux expliquer ce que c'est que les monades ?
Les monades, c'est des espèces des unités isolées qui suffisent d'eux-mêmes.
Justement, la différence entre peut-être la constellation de lieux là qui se dessine aujourd'hui et un Moyen-Âge, c'est que les moyens techniques aussi sont à disposition. Et moi, Tarnac, ça ne m'a pas du tout donné l'impression d'une utopie au sens d'une île séparée et forteresse plus ou moins assiégée. Enfin, il y avait des Italiens qui cherchaient asile, il y a des chercheurs qui viennent proposer des hypothèses un peu dissidentes, il y a une école qui se fonde, qui veut dépasser la différence entre travail intellectuel et manuel. Donc ça n'a pas du tout une impression de monade, pour le coup. C'est pas des bulles closes, quoi. Et ça, c'est les moyens techniques qui le permettent aussi. Mm-hmm. Autrement dit, c'est inspiration Moyen-Âge.
Et tu vois, par exemple, tu dis la différence entre théorie et technique, et je pense que c'est quelque chose qui intéresse aussi les gens du doc, cette problème, là, juste... Bref. On avait reçu toujours ce type un peu fou du Collège international de philosophie, Papaïs, qui disait... au Moyen-Âge, on ne se posait pas la question de la théorie et de la pratique, parce qu'au Moyen-Âge, il était improbable, impensable, de délier l'acte de la parole. Donc c'est juste une autre philosophie, en fait. C'est une autre philosophie, c'est une conception du monde qui est très différente. Hein ?
Tous les présocratiques en Grèce, il n'y avait pas forcément de différence entre la parole et l'acte.
Oui, oui, exactement. Oui. Mais...
Pour défendre la différence entre la parole et l'acte, c'est une autre chose qui, moi, parfois, un peu me fait grincer. C'est que, je sais que c'est un principe qui n'est pas défendu dans l'appel, mais enfin, la liberté d'expression, moi, j'y tiens énormément. Je pense que c'est un très beau principe, en fait. Et le découplement de la parole et de l'acte est une condition fondamentale de la liberté d'expression. C'est pas parce que tu dis je vais tous vous tuer que tu vas tous les tuer, et surtout que tu es condamnable pour l'avoir dit. Et alors que si tu tues tout le monde, en fait, je pense qu'on a de bonnes raisons d'agir sur toi, alors que si tu dis je vais tous vous tuer, on n'a pas de bonnes raisons d'agir sur toi. Et donc pour moi, ça c'est une chose extrêmement importante que l'appel ne reconnaît pas, comme d'une manière générale, je trouve qu'il y a... Bon, là je vais un petit peu radicalement. Ben, je peux justifier quoi? Pourquoi c'est important?
Pourquoi dans l'appel on ne trouve pas, en fait?
Ah ben, c'est dit explicitement que la liberté d'expression, en fait, est un principe libéral, en fait, ce qui est vrai. C'est un principe libéral.
Que la liberté d'expression est un quoi?
Est un principe libéral, en fait, c'est quelque chose plutôt à oublier. Et justement parce qu'en fait, une grande partie, et d'ailleurs je trouve ça intéressant, j'admire, hein, c'est une grande partie de cette littérature et de cet engagement, de cette politique, de cette action, est très habité par l'idée sur laquelle il faut lier les paroles et les actes. Et que le problème, c'est que les paroles et les actes sont déliés. Et c'est pas qu'on en oublie, c'est qu'à vrai dire, c'est plus beau que ça, c'est qu'on conteste le principe même de la liberté d'expression, comme au fond, on conteste un certain nombre de principes fondamentaux du libéralisme. Et là, c'est un peu, là encore, j'ai envie d'être de gauche, c'est un petit peu comme avec le changement, le réchauffement climatique. Je me dis, c'est vrai que l'État, c'est pas génial, mais ça peut être pire. Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas intérêt à faire une alliance avec le libéralisme politique, hein, pas le libéralisme économique. Le libéralisme politique, c'est justement la défense, l'usage des moyens de l'État pour défendre le droit à la pluralité des formes de vie. À la pluralité des formes de vie. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une crise. C'est-à-dire, les seuls qui vont défendre le libéralisme politique, c'est nous. Les seuls aujourd'hui qui sont capables, et qui ont peut-être les moyens, même les forces, de défendre le libéralisme politique, c'est nous. C'est-à-dire que tous les gens, soi-disant libéraux, y compris candidats à l'élection présidentielle, sont des ennemis du libéralisme. Ils sont là pour le détruire, en fait. Et donc, si nous, on dit, ouais, c'est vrai, moi, je pense que c'est un peu... Et là, je trouve qu'il y aurait une belle alliance à faire, une très belle alliance à faire, entre une certaine idée qu'il faut défendre une certaine vision de l'État comme libéral, c'est-à-dire neutre éthiquement, favorisant la diversité, ne cherchant pas... Enfin, organisant la pluralité, enfin, en tout cas, permettant la pluralité, etc., et justement, le projet d'invention de formes de vie communes plus libres et plus éloignées du contrôle à la fois étatique et économique. Souvent, les deux choses, d'ailleurs, sont liées. Voilà. Et ça, je trouve que dans l'appel, c'est quelque chose qui, moi, me manque énormément. Et je pense que ça a manqué dans toute la tradition anarchiste. C'est-à-dire de voir, en fait, qu'il y a peut-être une alliance possible avec le libéralisme politique et que, un petit peu comme, si vous voulez... un petit peu comme Trotsky en 1905 en Russie, ou même Lénine d'ailleurs en 1917, disait, en fait, ceux qui doivent faire la révolution bourgeoise, c'est-à-dire la révolution libérale en Russie, c'est les ouvriers, qui normalement, en fait, en bonne théorie marxiste, ne devraient pas la faire. Ça aurait été... en fait, je crois que ceux qui doivent faire aujourd'hui, sauf qui doivent défendre l'État libéral aujourd'hui, c'est en fait nous. Enfin, je veux dire, en tout cas, ceux d'entre vous qui se reconnaissent dans un truc plus anarchiste, autonomiste, libertaire, comme vous voulez l'appeler. Donc voilà, ça c'est un point, je trouve, qui me fait mal, en fait.
Je pense que la distinction entre parole et action, elle vient plus, en fait, de la façon dont on distingue dans la production, en fait, peut-être la connaissance et aussi la pratique. Elle n'est pas forcément... Je pense pas qu'il faut développer, en fait, l'idée jusqu'à le moment de la liberté d'expression, mais plutôt, en fait, au moment où on fait des distinctions dans le travail entre genre les personnes qui agissent et les personnes qui pensent et qui font. Et je pense que c'est un peu facile, en fait, d'aller jusque-là, parce qu'en fait, je pense pas que c'est important d'aller jusque-là. Ce qui est important, c'est déjà la base, c'est la façon dont on segmente, en fait, les personnes qui pensent et puis les personnes qui produisent. Et en fait, des fois, pouvoir réunir les deux, en fait, ça serait... On se libérait de plein d'autres problèmes. Enfin, je sais pas, je trouve ça un peu facile, en fait, d'aller sur la liberté d'expression, parce que en fait, je suis pas sûr qu'il aille jusque-là.
Je trouve pas non plus. Et la critique du libéralisme existentiel, c'est dans le texte, c'est pas du tout la critique de la possibilité de mode de vie pluriel, de mode de sexualité pluriel, de pensée plurielle. C'est pas ça le.
Aussi, c'est aussi ça. Mais c'est surtout. Vous allez voir. Mince, il peut pas faire de recherche dans ce truc. Il a été protégé. Bon, croyez-moi sur parole, je vous retrouve le passage.
Bon, je pense que c'est bon. Non,
je vais retrouver le passage, là, j'arrive pas à faire.
Ouais, je pense que c'est.
Mais disons d'une manière plus générale, si vous êtes d'accord avec moi, tant mieux.
mais je ne suis pas sûr que un certain nombre de rédacteurs de l'appel le soient. Un certain nombre de rédacteurs de l'appel ont une position probablement un petit peu plus forte sur ce point, qui consiste à dire non, le libéralisme, effectivement, est quelque chose qu'il faut combattre, en fait. Et le libéralisme, ça veut dire une certaine idée de l'État, j'insiste. C'est une certaine idée de l'État en tant que l'État organise, par sa neutralité, la pluralité. L'idée de la parole et de l'action, ça veut dire ce que César disait peut-être, mais ça veut aussi dire, par exemple, ce qu'on fait là, est-ce que ça nous engage dans des actions directement nous ? Donc il y a aussi, c'est très présent dans, par exemple, la surréaction qui vient, je pense que c'est présent dans maintenant, il y a aussi une question autour de la question de l'Assemblée, de la fonction de la parole dans la politique. Il y a un moment où on dit, la politique, c'est ce qu'on appelle politique de nos jours, c'est justement une parole coupée d'action. Donc il y a une critique de l'idée justement d'espace de débat, la notion même d'espace de débat. Donc c'est pas ce que tu dis uniquement, César. En fait, c'est intéressant ce que tu dis, mais pour le coup, je pense que c'est toi qui l'importe dans le texte. Moi, je ne l'ai pas vraiment vu. Mais effectivement, cette idée d'une non-séparation, c'est une manière de voir les deux choses.
C'est développé dans plein d'autres textes et aussi qui sont de la même inspiration. Et je crois que c'est une idée qui est vachement... Enfin, qui est importante aujourd'hui, en fait. Qui est importante. Et il me semble que ça transpire ça aussi dans cette envie, en fait, de réunir. Et je crois que l'idée aussi de l'école qui propose à Tarnac, c'est aussi cette idée de réunir, en fait, la théorie et la pratique. Et en fait, il y a toujours eu cette... Et comme aussi au DEUC, on a pensé à ça, quoi. Enfin, c'est une idée qui est assez contemporaine, et donc c'est pour ça que je n'irai pas jusqu'à défendre la liberté d'expression pour dire vous avez tort, voilà, parce que je crois que c'est pas jusque là, c'est vraiment aussi reconsidérer en fait des choses qu'on vit tous les jours et qui sont importantes à, voilà, enfin à réunir et qui sont rarement réunies. Enfin, c'est vrai que il y a peu d'écoles, il y a des écoles qui réunissent ça, mais il n'y en a pas beaucoup, en fait, et d'où aussi ces projets, en fait, enfin, voilà. Donc je suis pas sûr que... Parce que la liberté d'expression, on défend aussi beaucoup de choses là-dessus, c'est aussi une pente un peu glissante des fois. Et en fait, je sais pas, enfin moi je n'irai pas jusque-là, j'arrive pas à très bien comprendre ce glissement que tu as fait en disant, bah effectivement, je peux dire que je peux tuer des gens, mais voilà, enfin, mais en même temps, je les tue pas, mais enfin, je sais pas, ça c'est pas une... C'est pas quelque chose que j'ai entendu, en fait.
Séparer la parole des actes, c'est un principe fondamental, bien sûr, je pense, pour moi, qu'il faut défendre. Donc dans ce texte, c'est attaqué pour de bonnes raisons, c'est attaqué de manière forte. Je pense qu'ils ont tort. Ils ont tort parce qu'il faut défendre ce principe. Sinon, il n'y a pas en effet cette notion de liberté d'expression. Il n'y a pas beaucoup de choses d'ailleurs. Bien sûr, et elle est très, c'est un principe
moi,
qui est très attaqué.
J'ai pas senti que la liberté d'expression était en danger
en danger dans notre monde en général. Elle est très attaquée de différentes manières.
Mais elle est pas simplement défendue aussi. Hein, elle est bien défendue aussi.
Elle n'est pas bien défendue. Personne ne s'intéresse à la liberté d'expression.
Alors, je vous propose qu'on continue le débat chez Kamel au Mercure, rue Pixéricourt. Ils servent des super pizzas et il y a un super décor un peu fluxus et tout. C'est vraiment pas mal.